l'Eucharistie. C'est Jésus lui-même, vivant, sorti du tombeau, ayant traversé ma mort, toutes mes peurs, toutes mes angoisses, le jardin des oliviers, toutes mes agonies, ayant traversé tout ça, étant plongé à tout jamais dans l'éclatante lumière de Dieu, et qui vient à moi dans l'humilité et la pauvreté de l'Eucharistie. Et c'est de là que je veux partir, pour vous, pour que vous repartiez de ce camp avec au moins cette certitude totale et absolue. Il y a une équivalence totale et absolue entre Jésus sorti du tombeau au matin de Pâques et son corps dans l'Eucharistie qui vous arrache à tous les tombeaux, tous les tombeaux. Vous savez qu'il y a régulièrement une personne, comme récemment Marthe Robin, qui va vivre 20-30 ans sans rien manger d'autre que le corps de Jésus. Et elle vit comme cela, physiquement. Ceux qui m'ont déjà entendu, peut-être d'autres années, m'ont entendu raconter l'histoire de cette femme tombée dans le coma depuis 2 mois, qu'aucun médecin n'arrivait à arracher au coma, et c'est le corps de Jésus, apporté par des amis à moi, ils l'ont communié au moment où le corps de Jésus a touché ses lèvres, qu'elle est revenue à la vie, qu'elle a refait ses premiers gestes, à la stupéfaction des médecins et des infirmières qui ont tous témoigné de la chose, aussi incroyant qu'ils étaient. Alors, c'est des petits signes qui nous sont de temps en temps donnés pour dire « La vie, c'est moi. La vie, c'est moi. » Toute cette vie dont vous a parlé le professeur Joyeux ce matin, eh bien, elle est concentrée dans l'hostie sainte. Je recevais récemment la lettre d'une jeune fille qui est à ce camp, d'ailleurs, mais qui est peut-être trop timide pour témoigner. Et attends, je parle trop fort ou quoi? Et voilà. Elle a été dans une secte pendant des années. Et tout à coup, elle a dit le prix à payer pour rester dans cette secte, c'était trop lourd. Car ce prix, c'était perdre la foi dans la présence réelle de Jésus. Et j'ai fait peu à peu une plongée dans le néant. N'étant plus nourri de la vie, la mort est entrée en moi et j'ai perdu la notion d'exister. Je ne faisais plus de différence entre vivre et mourir. Mais il y a eu un moment fulgurant. Alors un jour, elle va communier, par hasard, comme ça, dans une église. Et tout à coup, elle est flashée parce qu'elle sent que le ciel s'ouvre dans son cœur. Et alors elle se pose cette question. Mais si vraiment Jésus est dans l'Eucharistie, comment c'est possible qu'il y ait des églises fermées, que toutes les foules qui vont acclamer Jean-Paul II ne viennent pas acclamer Jésus à chaque messe? Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas des catholiques qui se mettent à faire du porte-à-porte en disant « Viens voir l'amour, il est dans nos églises » et jamais un catholique n'était venu frapper à ma porte, etc. Et elle continue en disant « Comment passer près d'un tabernacle sans exploser de bonheur ?» Sans exploser de bonheur. Et c'est comme ça qu'il va revenir à l'église catholique pour avoir l'Eucharistie. Et puis quelques mois après, son frère se donne la mort. Et elle a ce mot extraordinaire en disant « Ce n'est pas le chômage qui a tué mon frère. » C'est qu'il n'a pas pu jeter dans le cœur même de Dieu tout le passé qu'il étouffait. Il n'a jamais pu venir se confesser parce qu'il n'avait jamais entendu parler de ce baiser du pardon qui est le remède à toute dépression. Et elle dit que quand son frère est parti, ça a été un arrachement de toutes ses tripes. C'était comme une partie d'elle-même qui partait. Mais j'ai éprouvé que l'amour de Jésus est plus grand que tout. Et j'ai la certitude que mon frère a glissé dans le cœur eucharistique de Jésus. Et c'est dans l'Eucharistie que je le retrouve. Et là, je voudrais vous supplier tous de prendre la résolution de ne jamais, si vous l'avez déjà fait, flirter avec toutes ces choses de mort qu'on appelle la sorcellerie, le spiritisme, etc., qui sont des choses effroyables. Récemment, j'étais dans le collège où j'ai fait toutes mes études et le directeur m'a raconté une histoire qui s'est passée tout récemment où des élèves ont fait une nuit des expériences de spiritisme, de table tournante, etc. Et il y a eu un moment absolument tragique où les vers ont répondu à la question « Qui es-tu ?» en disant « Je suis la mort ». Et à ce moment-là, les vitres se sont ouvertes, il y a eu un terrible coup de vent, les gens se sont mis à flotter, enfin, toutes sortes de choses tout à fait extraordinaires. Vite, 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 ils ont appelé l'aumônier, qui est venu à 2h du matin, a fait une prière pour que la victoire du Christ vienne arracher aux ténèbres et à l'enfer, et à la peur, tous ceux qui étaient là, et a dit, maintenant, vous allez tous vous confesser, demander pardon, pour être délivrés de ce péché que vous avez fait, peut-être sans le savoir, en flirtant avec ces trucs de mort. Et ils ont tous dit d'accord, ils ont tous été se confesser et communier le matin. Alors, ils étaient tous délivrés, retrouver leur bonheur, leur joie de vie, tout ça, c'était fini, noyer la victoire de Jésus. Et un seul avait refusé. Un seul avait refusé. Et quelques jours après, il a été tué dans un incompréhensible accident de voiture. Je vous dis ces choses non pas pour vous faire peur, mais pour vous dire que nous avons toute victoire sur toute force du mal en nos mains, à notre disposition. Nous avons tous les remèdes de vie, que ce soit le pardon, que ce soit l'Eucharistie, que ce soit la Vierge Marie. Vous vous rendez compte, le démon, il se déchaîne dans tous ces trucs-là. Le pauvre, il fait ce qu'il peut. C'est sa queue qui se met à balayer en tous sens. Alors bon, ça fait quelques petits ravages, et puis c'est pas agréable d'attraper la queue du démon. Mais où est la tête du serpent? Qui peut me dire où est la tête du serpent? Hein? Sous le talon d'une petite jeune fille qui est devenue mon amie, et en plus ma maman et ma reine. Alors qu'est-ce que j'ai peur avec elle? Pourquoi j'ai peur? Vous savez, l'été, quand il faisait très chaud, ma maman à moi, elle s'amusait, si je puis dire, quand il y avait des vipères, elle les tuait avec son talon. Paf! Comme ça. Ça m'impressionnait beaucoup quand j'avais 8 ans de voir ça. Mais surtout, c'était des talons très aigus, comme en ce temps-là, pour les femmes, tout ça. Voilà. Eh bien, je me suis dit, ça c'est marrant. Alors, j'ai pas peur. Pourquoi j'ai pas peur de vous parler de ces choses un peu effroyables? Parce qu'il faut savoir que ça existe, mais il faut savoir que, avec le Seigneur Jésus, nous avons toute victoire. Et je termine la lettre de cette jeune fille qui m'avait tellement frappé. Elle dit, sans l'Eucharistie, pas de bonheur en ce monde, la vie ne serait pas supportable. J'ai expérimenté cela après 7 ans d'angoisse. On ne peut pas se couper de Jésus sans s'auto-détruire. C'est une forme de suicide. Se couper de Jésus est une forme de suicide. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, plus que depuis peut-être des siècles, il y a des quantités de jeunes et moins jeunes païens qui ne connaissent rien de Jésus et qui le découvrent, se tournent vers lui comme vraiment le seul capable de les arracher à la peur, à l'angoisse, à la dépression, à la tristesse, à cette espèce de virus qui, tôt ou tard, nous pénètre quelque part, de cette envie de mort. Et alors il se tourne vers Jésus. Je ne sais pas si vous êtes au courant justement de cette foule, d'abord dans les pays où l'Église est persécutée, j'y reviendrai dans un instant, où vous savez qu'en ce moment le gouvernement soviétique est absolument sidéré parce qu'il réalise que depuis 20 ans, il y a des dizaines de millions d'enfants qui ont été baptisés contre toutes les réglementations, au prix de la prison pour leurs parents, que des jeunes sont prêts à aller en prison plutôt que de renier Jésus, des jeunes qui n'ont jamais connu une église, un prêtre, la Bible et tout ça, qui à partir de rien, tout simplement, découvrent Jésus au fond de leur cœur. Et il y a tout récemment le ministre des cultes du gouvernement soviétique qui a fait une déclaration incroyable en disant après 70 ans de persécution, on n'est pas arrivé à liquider cette race, on a pris tous les moyens possibles pour les liquider, jusqu'aux camps d'extermination, comme les camps nazis, on n'est pas arrivé, ça pullule, plus on tape dessus, plus ça se multiplie, on ne sait plus comment en sortir, eh bien, maintenant il faut en tenir compte. Ils sont là pour longtemps, pour très longtemps, on n'arrivera pas à les exterminer, donc on fait avec. Et ça c'était la déclaration officielle du ministre des cultes. Oui, c'est très très impressionnant, j'aurais voulu dire ça aux adultes ce matin, mais j'ai oublié. Mais c'est très impressionnant. Et vous avez la même chose en Occident. Où d'un côté, vous avez des tas de jeunes qui chantent un petit peu comme Renaud, fatigué des mensonges, fatigué de la vérité, que je croyais si belle, que je voulais aimer, mais qui est si cruel, que je m'y suis brûlé. Très belle chanson de Renaud. Vous voyez la beauté, la vérité qui est cruelle. et nous nous découvrons la vérité qui est douce et belle. Vous voyez la différence? Alors vous avez dans tous les secteurs de, je dirais, d'existence humaine, ces gens qui se convertissent. Je prends un exemple. Dans le monde de la politique, vous avez des conversions assez extraordinaires. Je prends juste un cas. Je connais un chef d'État d'un pays dans le monde qui chaque jour dit une dizaine de chapelets pour la conversion de Gorbatchev. Vous voyez, c'est très beau, entre chefs d'État. Vous avez tous entendu parler de la petite Cori Aquino, hein, la jeune présidente de Dusa, qui peut me dire, Philippines. Vous savez qu'on avait assassiné son mari, vous vous rappelez? Et je ne sais pas si vous vous rappelez comment ça se faisait, il était dans l'avion qui arrivait à Manille en train de dire son chapelet. Et tout le monde sortait de l'avion et lui a voulu terminer sa dizaine. Et il sort donc le dernier. Et juste quand il sort, il est fusillé. Et sa petite femme était déjà sortie, donc elle a assisté à cette chose terrible. Elle a passé toute une nuit en prière pour demander à Jésus la force de pardonner à ceux qui avaient tué son époux. Et quand tout le peuple s'est tourné vers elle en disant « C'est toi qui seras notre présidente », elle a pris 3 jours de jeûne et de prière, jour et nuit, pour demander ce que le Seigneur pensait de cela. Et c'est après 3 jours qu'elle a dit d'accord et qu'elle a été élue présidente, comme vous savez. Eh bien, cette femme, elle dit ceci. Une toute jeune femme, et c'est un très très beau modèle pour nous dans le monde politique. Chaque fois que j'ai à prendre une décision ou quelqu'un à rencontrer pour une affaire importante ou avant un speech, un conseil du cabinet, la prière est là. Chaque matin, j'offre au Seigneur ce que j'ai à faire dans la journée. J'essaie de tout mettre entre les mains de Dieu et de Marie. Je demande à l'Esprit Saint de me garder un regard clair pour prendre les décisions qui conviennent et les réaliser. Dans les situations graves, nous devons tous être comme Marie au calvaire, qui a su ne jamais être un fardeau pour les autres, qui a souffert, et cela donne un grand pouvoir pour réconforter les gens qui souffrent. Nous prions en famille, elle a quelques fils et filles de 15-16 ans, le rosaire chaque jour, surtout aux heures d'urgence et de crise. Je sais que je peux compter sur l'aide de Marie si je reste humble et confiante. Quand on donne tout, Dieu fait le reste. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Donc, vous avez ces gens dans la politique qui se tournent vers Marie, vers l'Esprit Saint. Vous avez dans le monde de la musique, vous avez tous entendu parler de ces conversions dans le monde de la musique, comme Bob Dylan, Carlos Santana, etc. Dans le monde scientifique, Xavier Le Pichon. Voilà un homme qui est un des grands océanographes du monde et qui prie tous les jours 1 heure sur son bateau d'exploration. Il est seul à prier au nom de tous. Vous avez dans le monde, par exemple, de l'économie, quelqu'un comme Jean Louders, qui est PDG de l'Eurotunnel et qui a été vice-président de la Banque mondiale. Et lui, il a ce très beau témoignage que je cite aussi en passant, quand il dit « Lorsqu'il faut mettre une morale concrètement en pratique, il faut avoir une telle force personnelle qu'on ne peut que s'appuyer sur une relation personnelle avec le Seigneur. Et dans les tempêtes, il est nécessaire au businessman de s'ancrer dans la prière. » Voilà un homme qui donne aussi 1 heure de prière tous les jours. Vous voyez, tous se tournent vers Jésus comme source de la vie. Dans le monde des médias, vous avez entendu parler de ces conversions aussi, d'un Henri Tissot par exemple. Dans le monde du cinéma, Michael Langsdale, tous entendu parler, qui joue l'abbé dans Le Nom de la Rose, qui s'est converti. Vous avez Jeff Fentolt en jouant Jésus dans Jésus Superstar, à force de le jouer, il s'est converti aussi, c'est pas mal. Dans le monde du journalisme, vous avez entendu parler de Roger Hawke, qui était un des otages à Beyrouth, et comment il s'est converti au fond de sa geôle, comment il a appris des psaumes par cœur de Notre Père en anglais, parce qu'il avait uniquement un petit extrait de la Bible en anglais. Et dès sa délivrance, il est venu à la rue du Bac prier Marie pour qu'elle délivre les autres détenus en otage, qui ont été délivrés le jour même de l'apparition de la rue du Bac, la médaille miraculeuse le 27 novembre. Oui, toutes ces petites choses, on voit Marie qui est vraiment à l'œuvre dans le monde politique et dans toutes les activités humaines. À propos de politique, est-ce que vous avez remarqué que cette année mariale, Il y a eu tous ces événements extraordinaires qui se sont passés en Russie. Avez-vous remarqué que c'est un 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception, comme me disait un enfant, qu'a été signé le premier accord de désarmement nucléaire à Washington, 8 décembre, que c'est un 31 mai, jour de la visitation, qu'il y a eu la rencontre, non pas entre Marie et Elisabeth, mais tout de même assez spectaculaire, entre Gorbatchev et Reagan à Moscou. Et Reagan qui sortait d'un monastère orthodoxe. Que c'est le 13 juin, 70 ans depuis Fatima, que Gorbatchev reçoit devant la télé soviétique 17 cardinaux envoyés par le pape. Enfin, des choses absolument inimaginables il y a encore un an. Tout ça durant l'année mariale. Vous croyez que c'est une coïncidence? Vous croyez que ce n'est pas le fruit de tant de pauvres, de malades, d'enfants, de jeunes qui ont jeûné et prié durant toute cette année pour la paix dans le monde? Et qui sait si l'accord entre l'Iran et l'Irak, qui commence à s'amorcer, n'est pas aussi un fruit de la prière du peuple de Dieu répondant aux appels de Marie? Vous voyez que Marie intervient dans tous les secteurs de la vie humaine. Je peux aussi dire dans le monde du théâtre, avec un Robert Hussein, etc., Fanny Ardant, tout ça, qui prie, tous ces gens qui prient, qui ne déclarent peut-être pas, mais on le sait, parce qu'ils ont confié ça à des personnes, vous voyez. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous dire que c'est quand on est branché sur Jésus comme le vivant qu'on trouve le goût et le sens de donner la vie, de transmettre la vie. Je recevais une lettre d'un jeune couple dont j'avais célébré le mariage il y a un an, et qui me fait part qu'elle, Marie, elle s'appelle Marie justement, est enceinte. Et alors il y a juste une phrase pour me dire ça: joie de participer à la paternité de Dieu, de continuer son œuvre de création. Cette première vie qu'il nous donne, nous l'accueillons afin qu'elle soit signe d'espérance dans un monde de mort. Chaque nouvelle naissance offerte au roi des rois est une victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est magnifique, sentant que cette vie en train d'éclore dans son corps, c'est la victoire de Pâques de mort. Et en plus, ce qu'il y a de plus extraordinaire et fabuleux, c'est que cette vie dont vous parlez, docteur Joyeux, ce matin, cette transmission de la vie, ce goût de donner la vie. Et petite parenthèse, une parenthèse très importante. Un des grands biologistes contemporains, le professeur Lejeune, j'ai oublié de dire ça aux adultes ce matin, alors vous avez les prémices. Le professeur Lejeune est un biologiste qui a découvert le microbe de la trisomie 21, donc des Mongoliens. Et il me disait l'autre jour, il n'a pas encore dit en public, alors j'espère qu'il me permet de le dire, « Tu sais, je découvre une évidence toute simple, c'est qu'au niveau démographique, l'avenir de l'humanité est aux mains des croyants. Parce qu'aujourd'hui, je ne rencontre plus une seule famille de plus de 3, 4, 5 enfants qui ne soient pas des croyants, que ce soit dans le tiers-monde ou en Occident. Tous sont des croyants. Parce qu'ils croient à un Dieu qui est la vie, ils ont le sens de donner et de transmettre la vie. C'est assez impressionnant. Donc les païens ont la mort devant eux, ont des pays qui dégringolent à toute allure sur la ligne de survie des peuples et qui vieillissent à toute vitesse. Et donc tout l'avenir de nos peuples, l'avenir démographique de nos peuples, c'est dans vos mains à vous en tant que croyants en Jésus ressuscité. Et c'est très très fort. Et j'oserais dire, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais je lui ai répondu, eh bien moi je te dis, cher professeur, que aujourd'hui je ne vois presque plus de jeunes capable de vivre un amour de lumière, de maîtriser leur sexualité, qui ne soient pas des croyants. Et comme ça. Comme ça, je ne peux rien, c'est des faits. Je vous donne des faits. Alors, ce que je voulais vous dire avant qu'on chante un petit chant sur la vie ou quelque chose, c'est que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette vie qui nous a donné, cette vie qui nous donne de transmettre, c'est une vie qui ne peut plus jamais mourir. Parce que, comme on l'a vu hier soir, Jésus est sorti du tombeau et n'y retourne plus jamais. Et vous savez quel est le dernier fruit de la communion, de l'Eucharistie? C'est le corps de la Vierge Marie au ciel. C'est ce qu'on appelle, d'un terme technique pour les chrétiens, l'Assomption, qu'on va fêter dans 3 semaines. C'est-à-dire tout le corps de Marie qui est au ciel. Et quand Sainte Bernadette, quand les enfants à Medjugorje, quand les petits-enfants africains à Kibéo voient Marie, ils voient d'avance ce qui nous attend tous. Ils voient ton corps, ils voient mon corps qui sera un jour glorifié comme le corps de la Vierge Marie. Et j'ai vécu ça très fort il y a 3 mois. Il y a 3 mois, 4 mois maintenant, le Seigneur a rappelé à lui mon petit papa, celui par qui j'ai reçu la vie avec maman. Et c'était le matin de la fête de Saint-Joseph, le 19 mars. Son cœur était très préparé, ça faisait depuis longtemps qu'il disait « Quand est-ce que Jésus va venir me reprendre sur l'autre rive ?» C'était un marin, alors il pensait toujours à son bateau. Chaque matin, il se réveille, « Tiens, je suis encore dans mon petit bateau et Jésus ne m'a pas encore appelé à le rejoindre sur le rivage, comme on a vu hier soir. » Et où Jésus me dira « M'aimes-tu ?» Et alors, donc, il est parti, très tôt le matin, prendre son petit déjeuner avec Dieu, comme Jésus avec Pierre, au bord du lac. Et j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit, ça a un peu étonné les gens qui étaient à l'enterrement, c'est que j'ai fait visser sur le cercueil des icônes, une icône de Marie, porte du ciel, comme c'est elle qui l'introduit au ciel, et une icône, la résurrection de Jésus. Des belles icônes, toutes en couleurs, en rouge vif, en or et tout ça. Alors tous les gens qui regardaient le cercueil, et normalement on est très triste quand on voit un cercueil, ils étaient flashés par ce visage de Marie et la résurrection de Jésus. Ah, comment voulez-vous qu'ils soient tristes après ça? Parce qu'ils voyaient ce qui allait arriver à papa, qui allait aussi un jour, qui va aussi dans son corps ressusciter avec Jésus. Voyez. Et je me souviens, quand il s'est confessé à moi, moi son fils prêtre, la dernière fois, il était tellement heureux, tellement plein de bonheur qu'il était à genoux, il s'est levé, alors qu'il marchait un peu difficilement, il a commencé à marcher dans tous les couloirs de la maison pendant une demi-heure, il faisait de la marche comme ça, en chantant « Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et revêt pour toujours la beauté de Dieu. » Je me souviens plus des paroles. Voilà. Et il chantait « Jérusalem, il chantait ça. Et quelques semaines après, il rentrait dans la Jérusalem du ciel. On croit à Libreville avec une telle chaleur, là. Bien, alors moi, je voudrais encore vous dire aussi, à propos justement de cette fantastique puissance de vie de Jésus qui sort de l'Eucharistie, comment des personnes qui sont face à ce qu'on appelle la mort, toute proche, eh bien, sont capables d'en recevoir, j'oserais dire, un bonheur. Un bonheur. J'ai connu au fin fond de l'Afrique, à Douala, tout un groupe de jeunes gens qui devaient être fusillés, qui étaient condamnés à mort, et qui avaient offert toute leur vie à Jésus, et qui ont chanté une messe d'une joie incroyable, battement de main, tam-tam, et tout, et tout, et tout, parce qu'ils savaient parfaitement bien que dans quelques jours, ils allaient voir Jésus dans sa gloire. Ils en étaient tellement sûrs que, à la limite, ils n'avaient plus peur de la mort. Et je viens d'étudier les lettres d'un jeune de 24 ans qui a été tué dans une prison à Paris, qui était condamné à mort il y a 30 ans de ça. Jacques Fesch, il s'appelle. Et ces lettres sont, c'est tout un chemin qu'il fait. Et comment il découvre l'Eucharistie, mais d'abord Marie. Et alors il dit, lorsque Jésus dirige une âme, c'est à Marie qu'il l'adresse d'abord. Et c'est Marie qui va être toute sa consolation pendant ces derniers mois de prison. Oui, de prison. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est pas des prisonniers qui sont envoyés au mitard, vous savez ce qu'on appelle le mitard, là pour les punir et tout, une espèce de petit cachot où ils sont tout seuls, et qui partent avec une médaille, si on peut dire, découpée en carton, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir du métal sur eux, avec l'Immaculée Conception, la médaille miraculeuse de la rue du Bac, et ils partent avec cette jeune fille, quelquefois sans trop savoir qui elle est. Je prends un autre exemple qui nous touche de près, parce que on vous parle beaucoup, beaucoup de ce terrible drame de la pandémie du sida. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est comment Beaucoup de jeunes atteints du sida et qui savent qu'ils ne peuvent pas guérir, eh bien, peuvent être transformés par Marie et le corps de Jésus. Je rencontrais récemment un jeune couple où tous les deux avaient le sida. Et ils étaient tellement... Il y avait une telle paix qui coulait de leurs yeux, de leur visage, que je leur ai dit, mais quel est le secret de votre paix? Ils m'ont raconté toute leur conversion. Comment ils ont découvert Jésus il y a un an et demi. Comment ils ont découvert l'adoration. Toutes ces heures qui passent devant l'Eucharistie. Et il y a comme une transfusion de vie en eux. Et ils disent, bien, tout ce qui nous reste à vivre, nous voulons le mettre au service de ceux qui ont la vie. Pour vous qui n'ont pas la vie, mais qui nous voulons donner la vie de l'Esprit Saint. Je reçois une lettre aussi d'un autre jeune atteint du sida qui me dit, ma seule arme et ma seule consolation, c'est le chapelet tous les jours. Le chapelet tous les jours. Je vous avais parlé, pour ceux qui étaient peut-être là l'an dernier, de mon ami Franck. Il a été emporté par le sida à 23 ans. Et sa dernière bénédiction, c'était « Que la Vierge Marie soit la paix de ta vie ». Il a dit ça en faisant une petite croix sur le front de sa sœur. Et lui, il s'était consacré à la Vierge Marie, quelques années avant, durant un rassemblement. Et il m'a dit « C'est à cause de cette consécration que j'ai fait quand j'avais 13 ans, que des années après, ayant appris que j'avais le sida, j'ai pu me tourner totalement vers mon Jésus, jusqu'à déclarer à mes médecins, le sida était pour moi une grâce, parce que j'ai redécouvert mon Dieu. J'ai redécouvert mon Dieu. Et parce qu'il avait fait cette consécration, il s'était livré totalement dans les mains de Marie, qui ne pouvait pas l'abandonner pour toujours, même si le Seigneur avait permis tous ces dérapages qui l'ont entraîné à être atteint du sida. Mais Marie est intervenue à son heure pour le ramener à Jésus. Et je connais encore un autre jeune, exprès j'en cite beaucoup, pour montrer que ce n'est pas une exception absolument unique, un autre qui écrivait, c'est en entendant chanter le Magnificat, le chant de Marie au jour de la Visitation, que ce qui avait été pour moi une bombe atomique, apprendre que j'avais le sida, s'est retourné en une manière de réinventer l'amour. Et j'ai compris qu'avec ce qui me restait à vivre, je devais trouver une autre manière d'aimer et de donner de l'amour aux autres. Oui, chaque fois, soit Marie, soit l'Eucharistie, pour ceux qui n'auraient que le désespoir comme horizon. Et ils sont arrachés au désespoir. Et je pourrais citer bien d'autres exemples. Alors maintenant, je voudrais faire un petit flashback, parce que on vient de voir Jésus ressuscité dans l'Eucharistie, on vient de voir Marie au ciel dans son assomption, mais comment en est-on arrivé là? J'ai commencé par la fin, pour voir là où nous allons. Maintenant, on va revenir au tout début. On va là, avec la bande magnétique, revenir au point zéro. Et le point zéro, c'est, mais je ne sais pas par quel bout commencer, c'est une jeune fille qui dit, le sida du péché originel ne passera pas par moi. Et c'est Marie, dans sa conception. Voilà, une fille de notre race, elle n'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Parce que du coup, je serais... Comme je ne suis pas Dieu, ça ne me touche pas tellement. Alors là, c'est Marie, ma petite sœur Marie. Et voilà que dans le rein de marée du mal, du péché, de la violence, de la haine, de tout ce que Satan fait aujourd'hui pour nous inoculer le virus de la mort, il y a une jeune fille sur qui le mal n'a aucune emprise, qui est totalement intègre, qui n'a aucune complicité, aucune connivence avec le mal, quel qu'il soit. Et elle est ma sœur, de ma chair et de mon sang. Elle est née comme moi. Avec cette différence près, c'est que, paf, en elle, toute cette contagion mortelle du péché a été stoppée. Parce qu'il fallait que Jésus naisse d'une chair et d'un sang totalement purs. Est-ce que vous me suivez? Je dis des choses très fortes, très profonde, très vraie. Alors, c'est peut-être dur à suivre, mais vous réécouterez la cassette plus tard si vous ne comprenez pas tout. Mais ça, c'est très très important à comprendre. C'est ce qui s'est passé au moment où l'ange vient et dit « Ma petite Marie, il y a Dieu qui m'envoie en ambassade et voici ce qu'il te dit. Veux-tu donner ton visage, tes mains, ta chair, ton sang, ton cœur à ton Dieu ? Es-tu d'accord ? Tu veux ? Il respecte sa liberté. Hein ? Fais ce que tu veux. Tu peux dire non, tu peux dire oui. Ah ! Alors l'ange est là. Est-ce qu'il va dire oui, non, 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 oui, 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 non ? Vous savez, comme entre deux amoureux comme ça, puis quand on pose vraiment la question, est-ce que vraiment je vais faire ta vie avec moi ? Ah ! On tremble, on ose à peine poser la question. Au cas où il dirait non, alors on est comme ça, on ne sait pas comment s'y prendre, puis on prépare ça des mois à l'avance, etc. Alors là aussi, elle a été préparée. Toute sa vie, le Saint-Esprit l'a préparée, elle préparait pour qu'elle puisse dire « Oui, d'accord, j'y vais, oui, je ne sais pas très bien ce qui m'attend, mais enfin, on fonce, on y va. » Alors elle dit oui. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint qui descend sur elle, Marie qui dit « Mon Dieu, voici mon corps pour devenir ton corps. Voici ma chair, voici mon sang. Ceci est ta chair, ceci est ton sang. Je te livre mon corps, mon sang va être versé pour toi. » Et je voudrais dire, c'est la messe qui commence. Au jour de l'Annonciation, c'est la première messe qui commence. C'est Marie qui donne sa chair et son sang à Dieu. Vous me suivez là ? Qui est-ce qui ne suit pas ? Levez la main. Hein, c'est un peu calé. Enfin, peu importe. Même si vous ne comprenez pas, on continue. Hein ? Alors voilà, récemment j'ai assisté à une échographie, alors je ne sais pas si vous avez rêvé, mais c'est super beau de voir, 3 semaines après la conception, ce petit cœur qui commence à battre. C'est absolument bouleversant. On voit ce petit mouvement dans cette espèce de vague, petit muscle, encore tout ouvert. Eh bien, ce que je voulais vous dire, c'est que chacun de vous, de nous, a aussi été, d'une certaine manière, conçu avec l'intervention de l'Esprit-Saint. Parce qu'aucune vie n'est donnée sans une intervention de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas d'existence humaine. À la limite, il y aurait un animal, et encore, mais il n'y aurait pas une âme humaine capable de le connaître, de le servir et de l'aimer. Et ça, c'est donné par Dieu. Donc, chaque fois qu'un enfant est conçu, et que ça vous arrivera plus tard, eh bien, c'est l'Esprit qui intervient à ce moment-là. Et c'est quand on comprend ça qu'on peut devenir celui que l'on est. Vous savez, une chose me frappe beaucoup, c'est comment chacun est absolument unique, 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 unique. Je ne sais pas si vous savez, enfin vous avez appris ça dans vos cours, que c'est impressionnant, dans la profusion de 50 à 100 millions de cette proportion-là, un seul unique spermatozoïde vient féconder un seul point qui est l'unique vulnérable de la coque de l'ovule. Tout est unique dans une profusion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Une autre chose, vous savez que le code génétique, je ne sais pas si le professeur Joyeux vous l'a dit ce matin, mais le code génétique est d'une telle précision que la police aujourd'hui fait des tests sur le sang et le sperme en recoupant, parce qu'il n'y a alors qu'une chance sur 4 millions de trouver 2 personnes ayant les mêmes caractères ou les mêmes empreintes digitales. Tellement chacun est unique et dans son unicité, c'est inscrit dans son code génétique. Ça, c'est extraordinaire. Et alors, c'est Jésus qui nous fait comprendre comment on est unique. C'est Marie qui a donné la vie à son unique Jésus qui le fait comprendre. Vous connaissez tous Michael Jackson. Bon. Alors, sa 3e opération chirurgicale, qui a duré je ne sais pas combien d'heures, hein, c'était combien ? On ne sait plus très bien. 36 heures, c'est ça, un truc comme ça. Alors, moi, je sais ce que c'est parce que j'ai participé comme infirmier aux premières opérations de chirurgie esthétique sur le visage humain, il y a quelques années, il y a 15-20 ans. J'étais infirmier en salle d'opération et j'ai vu ces rampantes qui innovaient la chirurgie esthétique. Alors, j'y ai repensé justement avec Michael Jackson. Ben voilà qui est très frappant, parce qu'il a maintenant un visage, vous ne savez même plus dire à la limite s'il est garçon ou fille. Et il est en Allemagne en ce moment, il fait des grandes tournées de concerts, avec des centaines de milliers de jeunes qui viennent le trouver, qui est vraiment leur idole. Et il a déclaré récemment « Je suis comme Jésus, parce que les foules courent après moi, comme après Jésus. Et je suis terriblement seul. Je me sens tout seul. Et il est malheureux. Vous ne pouvez pas savoir comment il est malheureux. Il a beau prendre toutes les précautions que vous avez incroyables pour espérer ne jamais mourir et jamais vieillir, etc. Il a beau faire repeindre un hôtel entier réservé à son chimpanzé à Tokyo, des trucs comme ça, envoyé par avion particulier, de dépenser un fric absolument monstre. Et c'est le plus malheureux des hommes, ou un des plus malheureux, parce qu'il ne sait pas qui il est. Et il faut prier pour que, comme la femme de Samarie, il rencontre Jésus. Un moment où il sera épuisé de fatigue, qui rencontre au bord du puits un homme, Jésus, qui est aussi fatigué à courir après lui. Jésus fatigué de la route, on dit dans cet évangile, fatigué de courir après Jésus. Eh bien, qu'il le rencontre et qu'il y ait tout ce petit dialogue. J'ai soif. Jésus qui dit à Jackson, comme à chacun de nous, donne-moi un peu de l'eau de ton cœur, donne-moi de l'eau de ton amour. J'ai soif de toi. Et puis, qui dit, mais si tu savais le don de Dieu que tu es toi-même, c'est toi qui m'en dirais un peu d'eau. Et moi, je te donnerais de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau de l'amour, de l'eau de la vie, de l'eau de l'Esprit Saint. Et tu seras heureux. Et tu deviendras toi-même une petite source d'eau vive, jaillissant en vie éternelle. Vous y êtes, quand je vous disais tout à l'heure que notre vie va durer toujours, c'est parce qu'il y a une petite source ouverte dans notre cœur qui va toujours jaillir, toujours, 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 toujours. C'est ce que Jésus dit à la femme de Samarie, vous voyez. Alors, il y a donc Marie qui porte en elle Jésus. Et puis, il y a Noël, où Marie l'offre aux bergers, aux pauvres, aux petits. Et c'est Marie qui offre l'Eucharistie à tous ceux qui sont seuls et pauvres et petits. Je viens de vous en donner quelques exemples. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais regardez, tout de suite après Noël, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le massacre des petits-enfants. Vous vous rappelez? Massacre des enfants. Dès que Jésus est né, il y a du sang qui coule. Et Jésus devient un réfugié parmi ces milliers de réfugiés d'aujourd'hui. Moi, j'ai souvent été dans des camps de réfugiés. Je me souviens, un camp de réfugiés sous l'Équateur, des réfugiés politiques. Vous savez que c'est la majeure partie des réfugiés d'aujourd'hui. Et ils avaient des tentes, toutes vieilles, abîmées, des tentes de l'armée, il pleuvait, c'était en pleine saison des pluies. Et ils avaient des tentes, toutes vieilles, abîmées, des tentes de l'armée, il pleuvait, c'était en pleine saison des pluies. Et il y avait au milieu du village une case, super propre, super belle. Et c'était, une seule personne y couchait, c'était Dieu. C'était la chapelle, la tente chapelle qu'ils avaient construite. Ils avaient dépensé tout leur fric, non pas pour eux, mais pour que Dieu ait une belle maison. Parce qu'ils savaient que la maison de Dieu, c'était leur maison à tous. Et c'est là qu'ils allaient adorer. Les réfugiés. Il y a aujourd'hui tous ceux qui sont massacrés, non pas directement à cause de Jésus, mais comme les saints innocents, indirectement. Et ce sont tous les enfants qui meurent de faim dans le monde par notre faute. Et c'est là où j'ai eu le cœur serré quand tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gaspillage de nourriture dans ce camp, ici à Lourdes. Alors je sais bien que ce n'est pas de votre faute complètement parce que nous vivons dans un monde en Occident où le gaspillage est à la mode, j'oserais dire, où tout se consomme et se jette. Mais je sais aussi, pour avoir vécu 13 ans de ma vie dans un pays où les enfants ont faim, où j'ai vu mourir de faim des petits-enfants, j'ai vu de mes yeux que vous voyez mourir des petits-enfants. Je sais que c'est à cause de tout ce gaspillage en Occident. Et ça ne sert à rien de taper sur toutes nos structures économiques internationales qui ne sont pas au point, parce que pour ça, il faut que les grands économistes internationaux se convertissent d'abord. Ça ne sert à rien de leur lancer la première pierre si toi, où tu es, tu te mets par exemple à essuyer ta table avec un bout de pain comme si c'était un chiffon, alors que ce bout de pain peut faire vivre pendant une journée un bébé au Sahel ou en Éthiopie. Vous comprenez? Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de mal au cœur de Dieu parce que nous sommes un petit peu coupables dans une petite mesure de ce massacre des innocents, des enfants victimes de la faim dans le monde. Et chaque petit bout de pain, c'est quelque chose de sacré. J'en ai ramassé l'autre jour, hier à midi, j'en ai ramassé sur le goudron. Ils étaient déjà sales, et bien j'ai tout ramassé et je les ai mangés à mon petit déjeuner ce matin. J'ai un peu raté la saleté, et puis c'était délicieux. C'était délicieux. Et mon petit déjeuner, ça a été vos poubelles, si je puis dire. Vous voyez ? Eh bien, ça a retenu pour toute la vie. Là où vous êtes, ne tolérez pas un gaspillage de nourriture autour de vous. Quand c'est dans votre famille, dites à vos parents, non, ça, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que vous jetiez ça. Cette pêche, elle n'est pas complètement pourrie. Il reste encore un bout qui est excellent. On coupe le bout pourri, on mange le reste. Et puis d'ailleurs, et vous verrez, papa, maman, faites vos comptes à la fin de l'année. Et vous verrez que si toute la famille fait des économies comme ça, et puis en plus en jeûnant le vendredi, en prenant pas de dessert, etc., vous verrez. Tout ce que vous aurez économisé, comparé une année avec gaspillage, une année sans gaspillage, et tout le surplus, hop là, en Afrique, en Asie, puis voilà, et le tour est joué. Et si toutes les familles chrétiennes faisaient ça, les structures économiques changeraient. On commence par changer la structure économique familiale, et puis de but de fil en aiguille, enfin, etc. Vous voyez, ça c'est très très important. Alors voilà le massacre des innocents. Et puis il y a tout le massacre. Et des innocents dont le professeur Joyeux vous a parlé ce matin. Tous ces enfants tués, mais je rajoute ce qu'il n'a peut-être pas dit, c'est que ce sont des martyrs en ce sens qu'ils sont tués parce qu'ils sont victimes de la haine organisée, orchestrée contre la vie dans le monde. Et ils sont victimes de ce déchaînement contre la vie. Je ne m'étends pas là-dessus, mais il y a aussi tous ces frères persécutés pour leur foi, dont on vous parle trop peu. Hier, je voyais un jeune de 24 ans qui m'a dit, stupéfait, mais je ne savais pas qu'il y avait des pays où les chrétiens étaient emprisonnés à cause de leur foi. À 24 ans, dans un pays sursaturé d'informations médiatiques, et qui ne sait même pas cette information minimale, qu'à quelques 600 kilomètres de la France, on peut être emprisonné pour avoir été à la messe. Je ne savais même pas ça. Voilà, à 24 ans. Cette ignorance incroyable. Et ce n'est pas pour rien que quand Jean-Paul II est venu à Lourdes il y a 5 ans, eh bien, il a dit, à la fin de la procession au flambeau, à minuit, en voyant toutes ces petites lumières, il a dit, aujourd'hui, dans le monde actuel, les petites lumières qui illuminent notre nuit, ce sont tous les hommes, les femmes et les enfants qui sont persécutés à cause de leur foi, et dans le cœur de qui l'Esprit Saint répand la louange. Jean-Paul II a dit ça, ici à Lourdes, vous voyez. Alors, d'ailleurs, à propos de jeunes persécutés, est-ce que vous savez, je dis beaucoup de choses fortes là, qu'il y a des jeunes qui ont été tués uniquement pour garder leur pureté, leur virginité. J'en connais plusieurs. Je connais une jeune fille du Rwanda, 20 ans, non pas tout à fait, 19 ans, elle joue 19 ans, elle était monitrice dans une école. Elle venait de jouer une pièce qui s'appelait « Le pâtre blessé ». Elle venait de jouer dans cette pièce et deux jours après, ramassée en stop, un gars qui cherche à la violer, elle refuse absolument, elle se débat et elle est tuée en restant vierge. Elle a préféré la mort à un péché. Il y a 2 ans de ça. C'est pas les premiers chrétiens. Et Jean-Paul II, le 4 octobre de cette année mariale, a canonisé, donc a proclamé saint 4 jeunes filles. Dans ce cas-là, une jeune Polonaise, Carolina, 2 jeunes Italiennes, Antonia et Pierina, 16 ans, une Pierina qui travaillait en usine dans le nord de l'Italie, elle revenait de la canonisation de Maria Goretti, une autre dans ce cas-là. Et puis ça lui est arrivé à elle, et puis une nouvelle Maria Goretti, et puis une petite Africaine, Anwarita aussi, même chose, une toute jeune novice, vous voyez. Eh bien, c'est pour nous dire ce que font ces jeunes de votre âge, qui ont 15, 16, 17, 18 ans. Vous en êtes capable. Vous êtes capable de choses plus grandes, plus fortes, plus héroïques que vous ne pensez. Tu es plus grand que tu ne le crois. Et je te mépriserais si je ne te disais pas cela. On se sous-estime de manière incroyable. On dit, oui, ça c'est impossible, c'est les saints, moi je ne suis pas saint. Vous croyez qu'ils étaient des saints avant? La petite monitrice dont je vous parle, ben, c'était une petite fille, enfin une jeune fille débordante de vie, avec toutes les mêmes tentations que nous, tous les mêmes problèmes que nous, et des tentations d'impureté, elle en avait comme nous tous, etc. Mais avec la force de l'Esprit Saint, elle a su dire, non, Là, je stoppe, je ne vais pas plus loin. Parce que mon corps appartient à Dieu. Jusqu'à ce qu'il appartienne aussi à celui que Dieu me donnera comme époux. Elle l'a dit. Elle avait 19 ans. Il y en a qui ont 19 ans là. Voilà. Elle n'était pas plus forte que vous. Elle était baptisée, mais elle aimait Marie et elle se nourrissait de l'Eucharistie. Et c'est là, vous voyez, où je vois combien Marie... vous savez, on l'appelle, d'un mot que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert il y a quelques mois, « Mère du bel amour ». Et c'est magnifique ça. Mère du bel... Mère, comment dire, de l'amour dans la beauté, de l'amour dans la lumière. Et c'est une fantastique éducatrice de l'amour. Vous savez, quand Marie vient tous les jours voir quelques jeunes gens et filles à Medjugorje, vous avez tous entendu parler, mais les témoins sont unanimes pour dire la progression spirituelle et humaine, la maturation humaine de ces jeunes. Et pour cause, il y a Marie qui vient leur dire un petit mot tous les jours. Alors, c'est pas si mal, pendant plusieurs années. Elle les éduque à tout et tout. Elle est leur formatrice, elle est leur monitrice, elle les éduque, voilà. Et on est stupéfié par leur maturité. Mais il n'y a pas besoin de voir Marie dans son corps comme eux pour se mettre à l'école de Marie. Qui a entendu parler d'une certaine Michèle, prostituée, plutôt une jeune fille qui se prostituait. Il ne faut jamais dire une ou un prostitué, ni un ou une homosexuelle, etc. etc. Il faut dire quelqu'un qui se prostitue. Bon. Et elle, c'était à la fin de la dernière guerre. Elle était en Allemagne. Et un soir, elle couche dans une chambre où il y a un mec qui est là. Il s'appelle, j'ai même noté son nom, si vous voulez faire une enquête sur l'histoire, où est-ce que j'ai mis le nom du copain Michel ? Voilà, voilà, voilà. Il s'appelle Raymond. Voilà, Raymond. Et voilà, elle veut coucher avec Raymond, bien sûr, ça va de soi. Et Raymond qui dit non. Alors elle dit, j'étais furax, qu'il ne veuille pas coucher avec moi. Et puis je vois, alors je lis exprès son texte pour être sûr que tous les détails sont exacts. Je vois dans sa piaule une photo de femme, très jeune, très belle. Dis donc, t'aurais bien pu me dire que t'avais une nana. Une nana ? Ben oui, cette photo, c'est elle. Mais non, c'est Marie. Marie, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle commence à s'expliquer, sa maman Jésus, etc. Bon, je vois pas pourquoi tu me caches que toi, comme les autres, t'es fiancée. Mais non, je vais t'expliquer. Non, 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 mais tu me prends pour une dingue, etc. Puis tout un petit dialogue. Et elle va avoir une haine pour Marie qu'elle considère comme sa rivale auprès de ce mec. Qu'elle ne peut pas avoir, qu'elle ne peut pas posséder ou être possédée par lui parce qu'il a sa nana. Et c'est 20 ans après qu'elle va découvrir Marie, qu'elle va se consacrer à Marie, qu'elle va dire son chapelet et qu'elle va découvrir, émerveillée, que Marie est la femme qu'elle rêvait d'être pendant 20 ans de prostitution. Elle rêvait finalement d'être comme Marie. Alors elle dit, elle me fascinait. Elle devenait de plus en plus proche. Je commençais à discuter avec elle. Et toi, maman Marie, que ferais-tu à ma place ? Elle s'installait dans ma vie très doucement. Dans mes moments de ras-le-bol, elle intervenait. J'étais tellement mal dans ma peau. Quand je buvais un peu trop, quand j'avais envie de reprendre la cavale, je lui disais, tu ne te rends pas compte où j'en suis, Marie ? Comment veux-tu que ton fils ait confiance en moi ? Quand ça ne collait pas avec les copines, j'en ai marre de celle-là, ou encore, dis, donne-lui un coup de main, elle n'en peut plus. Et petit à petit, Marie et moi, nous prenions l'habitude de vivre ensemble. Ah, c'est extraordinaire. Nous, Michel, Marie et moi, Michel, nous prenions l'habitude de vivre ensemble. Toutes les questions, tous les cris que je lui ai lancés, elle devenait de plus en plus mère. Et tout dans mon comportement se transformait. Je m'habillais autrement, je soignais ma tenue, je rangeais ma chambre. Au début, c'était vachement difficile. Mon langage changeait, mes copains aussi. La dive bouteille diminuait. J'avais tellement besoin d'être reconnue comme femme. Puis tout à coup, elle découvre que des tas de gens aiment Marie. Ah, tout à coup, elle découvre que cette Marie qu'elle aime, mais c'est une personne très connue, une personne publique. Et du coup, elle se sent devenue très importante parce qu'elle est la copine de cette femme qui est vénérée par toute la terre. C'est très, très beau. Et c'est comme ça qu'elle a été arrachée à la prostitution. Et elle achève en disant, « Je suis devenue follement amoureuse de son fils et j'aurais voulu avoir un homme comme lui. » Voilà, là c'est pas mal, voilà. Et voilà. Et ça, eh ben c'est l'histoire de la petite Samaritaine qui en était à son combien tome, vous avez entendu ça ce matin, combien déjà? Sixième, 1, 2, 3, 4, 5, et déjà au sixième, puis probablement qu'il y en aura d'autres qui se pointaient à l'horizon. Puis tout à coup, elle rencontre le septième qui est le bon, mais qui est son Dieu et qui est Jésus. C'est parce qu'elle se confesse à Jésus, vous rappelez? Puis Jésus qui lui dit, va chercher ton mari. Alors là, alors c'est lequel? Quel des six? C'est ce que je dois chercher, c'est un problème. Tu vois, Jésus, elle lit dans son... Alors elle se confesse, elle sort tout. Et puis ils se mettent à discuter. Et puis elle commence à dire, oh oui, mais quand le Sauveur viendra, il arrangera tout ça, etc. Sauveur, c'est moi. Elle le rencontre. Que c'est extraordinaire, la petite femme de Samarie. Et elle découvre enfin le véritable amour. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que Marie est celle qui protège l'éclosion de l'amour. Donc, vous avez parlé, professeur Joyeux. Ce matin, je suis parti, je n'ai pas pu rester, j'avais lancement aux adultes. Au moment où il disait, à 17 ans, on en a 80, et puis à 20 ans, on en a plus que 40, puis à 23 ans, une et demie, et je suis parti sur une et demie. Alors, je ne sais pas la suite de l'histoire. Je suis parti à ce moment-là. Eh bien, je dis, confie à Marie tous les moments difficiles de ta puberté, de ton adolescence, de la découverte et de ton corps et de ton cœur. Tu les donnes à Marie. Et Marie va te faire sentir que toutes ces puissances de vie que tu sens en toi, que ces fantastiques capacités et besoins d'aimer et d'être aimé, ça vient de Dieu, ça vient de l'Esprit Saint, ça vient de celui qui est vie et amour, ça vient de Jésus qui est vie, ça vient de l'Esprit qui est amour, ça vient des deux en même temps. Et tu dois tressaillir de joie de sentir ce besoin fantastique qui te traverse tout le corps d'aimer et de donner la vie à travers l'amour et par ton corps. C'est le plus fantastique des dons de Dieu. C'est là où on ressemble plus à Dieu, qui donne la vie à toute la création à travers un amour et à travers son corps né de Marie, son corps dans l'Eucharistie. Mais c'est comme les plus belles des choses qui peuvent faire les pires des ravages. En Afrique centrale, je voyais des volcans. Et rien n'est beau comme un volcan quand il est calme et maîtrisé. C'est super, ça fait un panache de flammes rouges et jaunes la nuit. C'est une beauté, tu sentais rester toute la nuit à regarder ce panache. Mais gare à toi si tu es trop près quand ça se réveille. Et j'ai vu un fleuve de lave de 45 km de long où des arbres de 60 mètres étaient comme des petites allumettes et qui faisaient des milliers de victimes humaines. Eh bien, la sexualité, qui est la plus belle des choses dans notre monde, en un certain sens, est capable aussi bien de donner la mort que de donner la vie. Et c'est justement tout le drame du sida aujourd'hui. Et je ne sais pas si Joyeux vous l'a dit, mais la plus sûre des prophylaxies contre le sida, c'est tout simplement, dans beaucoup de cas, la simple, joyeuse chasteté des enfants de Dieu. La ville de New York, dans sa campagne anti-sida, a fait d'immenses affiches qu'on voit dans le métro à New York, en disant sida, deux points, appel à la chasteté juvénile et à la fidélité conjugale. Les païens qui disent ça. Vous voyez ? Et je suis frappé de voir comment dans beaucoup de revues païennes aujourd'hui, comme Vital, comme Podium, tout ce genre de revues qui sont faites par des païens, eh bien, se multiplient dans le courrier sexuel les appels à la chasteté. Et je voyais dans une de ces revues qu'il n'y a rien de chrétien. Et c'est ce mot assez extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai apporté cette citation. Non, j'ai oublié, ça ne fait rien. Où il dit, eh bien, la chasteté que je découvre fait penser aux autres autour de moi que je viens d'une civilisation plus avancée. C'est extraordinaire. Une fille qui n'est pas du tout chrétienne, qui tout à coup, à cause de la peur du sida, se met à vivre dans la chasteté, à refuser de coucher avec des mecs. Et les mecs qui lui disent, j'ai l'impression que tu viens d'une civilisation plus avancée. Tu es en avance sur nous. Et la chasteté, c'est l'avenir. Vous voyez ? La maîtrise de soi. Et seul Marie et l'Eucharistie peuvent nous le donner. Alors, j'ai envie de laisser un petit témoignage. Là, vous avez entendu ma voix. Qu'est-ce qu'un petit témoignage là-dessus ?
Bon. Alors, en quelques minutes, je vous dirais que je suis né simplement dans une famille chrétienne, mais qui n'était pas pratiquante. J'ai fait rapidement mon baptême, très rapidement ma première communion. À 13-14 ans, j'ai quitté l'église. Et je me rends compte avec le recul que quitter l'église ou se situer en dehors de l'église, c'est aussi se couper de l'esprit, de l'esprit d'amour qui anime cette église. Et à partir de 14-15 ans, je crois que ça c'est normal, et puis ça se fait très souvent, mais on commence à sortir, on commence simplement à s'ouvrir aux autres, vouloir faire des tas d'expériences, des tas de découvertes, et pas forcément avec une idée négative derrière la tête, mais tout simplement on a envie d'être heureux, de découvrir. Et moi je sais qu'à 14 ans, j'avais décidé d'être heureux, mais sans Dieu, sans l'Église, ni toutes ces histoires-là. Et surtout, je ne comprenais pas du tout pourquoi des curés, pourquoi le pape, pourquoi l'Église me faisait la morale sur ma conduite à tenir en matière sexuelle. Et je me suis dit progressivement que j'étais assez grand tout seul, que j'étais libre, adulte et vacciné, et donc que je pouvais d'une certaine manière subvenir seul à mon bonheur. Progressivement, j'ai commencé à sortir de plus en plus. Alors au début, c'est vrai, c'est marrant. Et puis progressivement, ça devient un besoin de sortir. Et je sortais de plus en plus souvent. Il s'est trouvé qu'à 18 ans, je suis parti pour 6 semaines aux États-Unis. Et là-bas, je me suis retrouvé dans une faculté américaine où je dirais que j'étais un peu secoué parce que j'ai vécu là-bas et qui était assez en contraste avec l'univers collégien, lycéen dont je sortais, qui était quand même relativement sympathique, on avait bien chaud, on se connaissait tous. Et puis là, pendant 6 semaines aux États-Unis, j'étais assez secoué par tout ce que j'ai pu voir en matière de sexe et en matière de drogue et en matière d'alcool. Et déjà un petit peu avant, j'avais comme je sortais déjà progressivement de plus en plus souvent, c'est vrai que pour vaincre une certaine timidité, je picolais un petit coup. Et puis, ce fait que progressivement, j'avais de plus en plus besoin de cet alcool. Quand je suis rentré en fac à 18 ans, j'étais plus décidé que jamais à faire, être libre, à être maître de mon corps. Je dis, mon corps, il m'appartient, j'en fais ce que je veux. Le problème, c'est que en pensant comme ça, je le pensais aussi pour le corps des autres. Et donc, ça a été un circuit, une chaîne un peu sans fin où, après une première relation sexuelle avec une fille qui m'avait laissé profondément déçu, et puis elle aussi, même si elle ne l'a pas dit, mais c'était un enchaînement, et puis ça a été une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et puis ça continuait. Et de plus en plus, c'est vrai que je me suis retrouvé entraîné dans un cercle un peu qui était un cercle morbide. Alors c'est vrai qu'il y avait la façade, il y avait la parade, on faisait les grandes gueules auprès des copains, les grandes gueules auprès des copines, tiens, moi j'ai eu un tel, une telle, j'en ai eu autant, et puis toi, etc. Mais à l'intérieur de moi-même, c'est vrai que c'était de plus en plus le vide, de plus en plus l'amertume. D'autant plus que j'avais pas de problème de fric à la maison, et je me suis retrouvé très rapidement à dépenser 5000 francs par mois pour subvenir à tous mes besoins d'alcool, de drogue, d'orgie, etc. Je veux dire que tout ce luxe, et puis un peu cette ripaille dans laquelle j'ai vécu pendant pas mal de mois, c'est vrai que ça m'a laissé complètement, physiquement, moralement, spirituellement, nerveusement aussi, complètement sur la touche, complètement délabré physiquement, moralement, avec la très forte envie de suicide. Et j'ai fait une tentative de suicide qui a miraculeusement échoué. Alors pendant tout ce temps-là, c'est vrai que le bon Dieu, moi j'y pensais pas, mais lui, il pensait à moi. Parce que même si toi, tu crois pas en Dieu, lui, il croit en toi. Et j'ai constaté à la relecture que même dans les moments les plus raides, dans les moments les plus noirs de ma vie, le Christ était quand même présent. Et que s'il n'avait pas été là, peut-être que ça aurait encore été pire pour moi. Et alors, au fil des mois où je me sentais de plus en plus vide, un beau jour, je ne sais pas pourquoi, c'était l'année passée, j'avais des examens à passer en juin, des examens à la fac. J'avais déjà raté un an. Je m'étais dit, on va essayer de réussir cette année-ci. Mais je sentais bien qu'il fallait que je quitte un peu tout le milieu dans lequel j'étais et prendre quelques jours ouverts, quelques jours de solitude, pourquoi pas. Et sur un coup de tête, je suis parti dans une communauté du Lion de Juda. Et j'en profite aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas encore fait publiquement, j'en profite aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur pour cette communauté qui m'a accueilli. Normalement seulement pour une semaine, et puis finalement j'y suis resté 3 mois. Tout simplement, je n'étais pas du tout parti avec l'idée de me convertir. Mais 2 ans auparavant, j'étais passé 2-3 heures seulement dans cette communauté. Je m'étais dit, ils sont complètement dingues. J'étais vite parti. Et je ne sais pas pourquoi, il m'était resté quelque chose de ce passage. Et il y a un an, je me suis dit, c'est là que tu vas aller passer quelques jours. C'était en Ardèche, il y avait du soleil, tout ce qu'il me fallait. Il se trouve que quand je suis arrivé là-bas, j'ai été d'emblée saisi, dès qu'on m'a montré ma chambre, par une paix immense. Et toute cette paix, puis surtout le silence. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une longue expérience du silence. Les premières heures, c'est assez angoissant. Parce que bon, moi, personnellement, je vivais continuellement dans le bruit et je vivais continuellement la nuit. Le bruit, la nuit, ça ne vous aide pas à avoir les idées très claires. Et là, tout à coup, je me retrouvais dans le silence. Ce qui fait que tout ce que j'essayais de ne pas voir, tout ce que j'essayais d'oublier, remontait par la force des choses. Et en plus, il y avait ce silence, il y avait cette paix, il y avait un truc très positif dans l'air, je ne savais pas qui, pas quoi, ni pour qui, ni pourquoi. Et j'ai lutté. Pendant plusieurs jours, j'ai lutté contre cette ambiance et je ne voulais pas. J'allais à aucun office, j'allais boire mon verre en ville quand j'en avais envie. Le jeudi soir, il jeûnait, moi j'allais manger une pizza. Enfin, je n'étais pas vraiment à l'aise dans ce milieu-là. Et pourtant, c'était la semaine qui précédait la semaine sainte. Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois vraiment que le Seigneur m'a guidé pour faire la cérémonie des rameaux. Et donc j'ai fait la procession des rameaux, je traînais ma jambe derrière. Et à la fin de la cérémonie, on était à la chapelle. Et je me suis retenu, et puis une fois que tout le monde a eu quitté la chapelle, mais simplement j'ai éclaté en sanglots, j'ai chialé comme une madeleine, et c'était le cas de le dire. J'ai chialé tout seul en cette chapelle, il y avait juste une petite sœur du Lion qui était derrière moi et qui priait, j'étais assez touché. Et c'était l'expérience, je crois, c'est pas je crois, c'est je sais, l'expérience de la tendresse, l'expérience de l'amour de Dieu. Et l'expérience aussi de la joie du repentir, la joie du regret, pas du regret morbide, je suis un sale petit con, je suis un sale petit pécheur. La joie de se reconnaître, oui, pécheur, et d'accueillir dès lors l'amour et la tendresse de Dieu. Qui qu'on soit, quelles que soient les conneries qu'on ait pu faire derrière soi. Et à partir de là, je suis resté 3 mois dans cette communauté, et puis de là, je suis parti 1 an à Jeunesse Lumière. Pour vous dire qu'à Jeunesse Lumière, on n'est pas des saints. Bon, j'espère que vous l'aviez déjà remarqué. Alors tout simplement, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que dans la communauté du Lion pendant 3 mois, la chose qui m'a fait tenir, parce que ce n'était pas du tout évident de rester là pendant 3 mois comme ça, alors que c'était un milieu dont je n'avais pas du tout envie, je bouffais du curé avant, alors vous pensez. Ce qui m'a fait tenir, c'était l'Eucharistie et l'adoration du Saint-Sacrement. C'était les 2 seules choses. Les autres offices, j'y allais pas trop, mais l'Eucharistie tous les matins, et puis l'adoration progressivement, 1 heure par jour, c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a guéri. L'Eucharistie, tout simplement, peut-être comme certains d'entre vous, j'avais vraiment du mal à y croire que dans l'hostie, il y avait le corps, c'était le corps du Christ, c'était Dieu, c'était pas évident à croire. Et bien, pendant plusieurs semaines, le Seigneur m'a mis au cœur cette prière chaque fois que j'allais communier. Écoute Seigneur, si vraiment c'est toi qui es là, eh bien guéris-moi, sauve-moi, fais quelque chose pour moi. Et je rends grâce au Seigneur, au Seigneur Eucharistie, au Seigneur Tout-Puissant, parce que si aujourd'hui je suis là devant vous en plus ou moins bon état, mais je suis un peu malade aujourd'hui, si je suis surtout heureux de vivre, si je suis heureux d'aimer et d'être aimé, eh bien c'est grâce, entre autres, et surtout grâce à l'Eucharistie. Alors ça ne se comprend pas avec la tête, ça se vit avec le cœur. Et alors après, nous allons avoir l'Eucharistie, mais moi je vous invite tout simplement à faire cette prière du cœur, Seigneur, guéris-moi. Dis une parole, guéris-moi. C'est ce qu'on dit toujours avant de communier. Eh bien, cette fois-ci, aujourd'hui, dites-la avec toutes vos tripes. Et puis ce soir, c'est vrai qu'il y a une superbe cérémonie à la basilique. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à chacun. Il a une question qu'il pose à chacun. Et il demande, veux-tu guérir? Veux-tu guérir? Si vous dites oui, alors, c'est formidable. Si vous ne dites pas oui aujourd'hui, on peut dire oui chaque jour. Moi, le Christ et le bon Dieu, on en a parlé pendant des années. J'ai toujours su que Dieu était amour. Vous direz, pendant des années, ça m'a fait ni chaud ni froid, ça m'a plutôt fait fuir. Eh bien, le Christ, il est là. Il est là aujourd'hui, il est là demain, à côté de chacun de nous. toujours prêt à nous aimer, toujours prêt à nous accueillir, à nous faire devenir des hommes et des femmes debout et libres. Alors si aujourd'hui je vis cette joyeuse chasteté qui n'est pas forcément évidente, qui n'est pas facile dans le monde où on vit, eh bien c'est grâce à l'Eucharistie, c'est grâce à la prière du chapelet, c'est grâce à Marie. Et c'est aussi parce que progressivement, le Seigneur m'a montré la beauté et la grandeur de la femme. D'abord, il m'a montré que mon corps, c'était pas n'importe quoi, mais c'était le temple de l'Esprit Saint. C'était pas seulement une enveloppe, c'était à la limite quelqu'un, que j'étais mon corps, que je vivais mon corps. C'était pour moi, mais c'était aussi pour chacun et chacune de ceux et de celles que je connaissais. Et progressivement aussi, j'ai compris que ce mystère de Marie, cette beauté de Marie, je dirais que d'une certaine manière, elle n'appartenait pas seulement à Marie, mais ce mystère, cette beauté de Marie, elle était présente en chaque femme. Toutes les femmes, et je dirais même la prostituée de la rue Saint-Denis, elle porte en elle cette beauté, ce mystère de Marie. Et nous devons regarder ces femmes, nous devons nous regarder entre nous, comme si nous regardions Marie. Pas pour faire semblant, mais parce que c'est vrai, avec les yeux du cœur, avec les yeux de Dieu. Vous savez, au pied de la croix, quand le Christ était sur la croix, il y avait deux femmes. Il y en avait plusieurs, mais il y avait surtout Marie, la mère de Dieu, et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, excusez-moi, elle en a fait quand même des vertes et des pas mûres. Bien, dans le regard du Christ, c'était, j'ai peur d'être un hérétique, Daniel, tu me corriges, c'était la même virginité.
C'est vrai?
Bon. Et vous savez comment, à la résurrection, le Christ a appelé Marie-Madeleine, et c'est comme ça que Marie-Madeleine a reconnu le Christ. Il ne l'a pas appelée Marie-Madeleine, il l'a appelée Marie. Il a appelé Marie-Madeleine par le nom de sa maman. C'est quand même extraordinaire. Eh bien, je crois que c'est valable pour Marie-Madeleine, c'était valable pour toutes les femmes de l'Évangile, eh bien, c'est valable pour chacune de nous aujourd'hui. Et c'est pas au nom d'une morale stupide que l'Église nous dit « Faites pas l'amour avant le mariage, faites pas l'amour n'importe comment. » C'est au nom de la beauté, c'est au nom de l'amour. Et la chasteté, elle n'est pas évidente. La chasteté sans le Christ, la chasteté pour la chasteté, je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour le Christ et avec le Christ, alors c'est une voie de liberté, c'est une voie de bonheur assuré. C'est du combat aussi. Mais la force, nous la puisons dans l'Eucharistie, dans l'adoration, dans la prière et la prière du chapelet. Je dirais tout simplement que ma virginité, ma pureté, j'ai eu très mal de la perdre. Même en tant que mec, c'est vrai, ça arrive pas. Eh bien, j'ai eu très mal le jour où ça s'est passé. Mais je vous dirais simplement qu'aujourd'hui, si je suis libre, ou si j'essaye de l'être, si je suis heureux, c'est parce que cette virginité, cette pureté, même la pureté de mon corps, elle m'a été rendue. Elle m'a été rendue. Ce n'est pas moi qui l'ai acquise à la force du poignet, à force de prière, de prière, de prière. Elle m'a été progressivement donnée. Progressivement, et je le répète, dans l'Eucharistie, et aussi, surtout dans ce sacrement splendide, qui est le sacrement de la beauté, la réconciliation, la confession. Eh bien oui, ben cette pureté que tu as peut-être paumée, eh bien moi je te dis, elle peut être rendue. Et le Christ repose une seule question. Veux-tu guérir ?